Samedi 2 décembre 2017, il est 18h à Niamey, c'est l'heure du journal en français sur le studio Kalangou au micro Michel Dégé. Au sommet de ce journal, les historiens nigériens ne sont pas contents du niveau d'enseignement de l'histoire dans le système éducatif nigérien. Ils sont allés lancer leur cri de cœur ce matin à la représentation nationale qui a pris l'engagement d'interpeller les ministres concernés, mais ce sera la prochaine session. À l'intérieur du pays, encore une bagarre entre éleveurs et agriculteurs avec mort d'homme. La dernière en date a eu lieu hier dans un village de la commune de Chetimari, région de Diffa. Bilan, 2 morts. Reporters sans frontières, c'est cette organisation internationale basée à Paris qui assure la promotion et la défense de la liberté de la presse partout dans le monde, et spécialement venue au Niger à l'occasion de la célébration de la 4e journée nationale de la liberté de la presse. La responsable du bureau Afrique de RSF s'est prononcée par rapport à la situation actuelle de la liberté de la presse au Niger. Claire Kansribet a suivi en partie magazine de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Les travaux de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 tirent à leur fin avant la clôture prévue pour le lundi prochain. C'est une journée parlementaire sur la protection sociale au Niger qui a été organisée ce samedi. Mais auparavant, occasion a été donnée à l'Association des historiens nigériens de mener un plaidoyer en faveur d'une meilleure promotion de l'enseignement de l'histoire et en particulier celle du Niger à tous les niveaux d'enseignement. Le PhD Mamoudou Djoubo, président de l'Association des historiens nigériens, que je propose d'écouter.
Cela est un scandale. On veut nous apprendre à connaître autre chose alors que celui qui ne connaît pas son histoire, celui qui ne connaît pas son passé, ne peut rien réussir dans la vie puisqu'il ne peut rien comprendre. Alors, il est arrivé que des ministres dans ce pays aient décidé de manière autoritaire de supprimer l'enseignement de l'histoire dans les séries scientifiques. En série D, en série C, nous avons réussi à faire depuis 3 ans réintégrer l'enseignement de l'histoire dans les séries D, mais malheureusement, l'histoire n'est prise en compte que pour le second groupe au baccalauréat et les séries C ignorent encore l'histoire, comme si un mathématicien n'a pas besoin d'histoire.
Quelle a été la réaction des parlementaires par rapport à votre plaidoyer?
Nous avons été agréablement surpris. Les députés sont conscients et ils nous ont reproché d'avoir attendu si longtemps avant de réagir. Et effectivement, il y a eu 10 intervenants, parce que le temps ne le permet pas. Mais sur les 10, il n'y a pas un seul qui n'ait pas apporté une contribution positive. Et la promesse est faite de nous soutenir. Nous allons, en tant qu'association des historiens nigériens, nous atteler à ficeler le programme de pré-projet que nous allons soumettre à l'ULIS, représentation nationale.
La journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, a été officiellement célébrée ce jour au Niger et c'est le centre des jeunes de Bukoti qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le thème central de la célébration de cette journée est le droit à la santé. Le ministre de la Santé publique a saisi l'occasion pour présenter la situation de l'épidémie au Niger. Docteur Ilyasu Idi Mainasala.
Les enquêtes spécifiques font état du taux de prévalence élevé chez les groupes spécifiques vulnérables tels que les professionnels du sexe 16,6%, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes 17,2%, les détenus 1,9%, les réfugiés installés entre 2012 et 2016 au Niger 1,6%. En plus de ces populations clés, il existe les populations passerelles qui méritent une attention particulière, d'autant que la séroprévalence a une tendance ascendante chez ces populations au cours des dernières années. Il s'agit des forces de défense et de sécurité pour lesquelles la prévalence est passée de 0,4 à 1,1 entre 2011 et 2015, les jeunes dont la prévalence est passée de 0,1 à 0,5% et les routiers camionneurs de 0,4 à 0,9%. Les deux régions les plus touchées sont Niamey 1,1%, Diffa 0,7%, tandis que les plus faibles séroprévalences ont été enregistrées à Maradi, Tillabéri et Zender 0,2%.
Pour recueillir par Seigna Yuba Kaka, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui même 2 décembre la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. À Maradi, l'esclavagisme est plus observé dans le nord de la région, selon Aboubakar Fatandaou. Malgré les efforts pour les affranchir, certains esclaves préfèrent rester avec leur maître à cause de la pauvreté. Détail avec le secrétaire général de l'Association de défense des droits humains et le développement de la région de Maradi, Aboubakar Fatandaou, au micro de Mohamed Maman.
Présentement, il y a des esclaves qui sont toujours avec leur patron. Ça, c'est la pauvreté. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont rien et ne font pas signal aux gens qui peuvent les défendre.
Quelle est la localité où l'esclavage se vit encore?
En tout cas, vraiment dans la région de Bermo, un peu au-delà de Bermo, dans la brousse, la Kadane ou Ngadébégé. Jusqu'à présent, il y a des esclaves qui sont avec leur patron. Même si tu fais que l'esclave quitte son patron, entre-temps, il retourne.
L'esclave, quand il est chez son patron, comment il vit?
Il n'est pas humain parce qu'il n'a aucune considérance. Il est là, c'est un esclave, c'est pour travailler 24 sur 24.
Et quelles sont les activités que ces esclaves font chez leur patron?
Ils pullent, ils font la corvée haut, ils amènent du bois en brousse, ils lavent leurs habits, ils balayent la maison. Tous les ménages, ce sont eux qui font. Si tu as un esclave femme, elle travaille 24 sur 24. Elle n'a pas de repos. L'esclave homme, lui aussi, il travaille. Il suit les animaux en brousse. Ça ne finit pas, ça ne finit pas. Parce qu'ils ont hérité ça de leurs grands-parents ou des trucs comme ça.
Jeudi 30 novembre dernier, l'Organisation des Nations Unies a décerné le prix Jeune Championne de la Terre à la Nigérienne Mariam Maman, âgée de 27 ans, pour son travail apportant une solution 3 en 1 à l'un des plus grands problèmes environnementaux de l'Afrique. Ce projet repose sur la jacinthe d'eau qui étouffe le continent. L'innovation de Mariam Maman consiste à transformer la jacinthe d'eau en énergie durable et en engrais respectueux de l'environnement. Le but de ce prix, remporté par notre compatriote, est d'identifier, soutenir et d'honorer les individus âgés entre 18 et 30 ans qui possèdent de grandes idées pour protéger ou restaurer l'environnement. Dans la région de Diffa, une bagarre entre éleveurs et agriculteurs s'est soldée par la mort de deux agriculteurs et deux blessés. Les faits se sont déroulés hier aux environs de 18h à Lao, village situé dans la commune rurale de Chetimari. Les éleveurs, auteurs de ces meurtres, se sont enfuis. Une enquête est en cours pour les retrouver. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, une question d'actualité qui préoccupe plus d'un au Niger, un problème récurrent que vivent certaines localités à vocation agricole ou pastorale du pays. Le département de Téra ne fait pas exception. Écoutons l'honorable Hamidou Niandou, chef de canton de Téra. Pour lui, le recours aux commissions foncières de base peut permettre de réduire ces conflits.
Quand on dit récolte ou fin de l'hivernage, c'est les conflits champêtres entre éleveurs et agriculteurs. Vraiment, c'est des difficultés que nous gérons au quotidien. Pratiquement, il ne se passe pas un jour où des animaux ne sont pas rentrés dans un champ d'autrui et tout naturellement, le propriétaire du champ les transfère à la fourrière. Les dommages occasionnés par ces animaux, vraiment, c'est un préjudice. Pour le cultivateur, malheureusement, il arrive qu'il y ait des coups et blessures involontaires et les forces de défense et de sécurité essaient de calmer les esprits. Mais on essaie quand même de mettre des structures en métal pour aplanir la situation. Donc ces structures-là, c'est ce que nous appelons communément les commissions foncières de base. À la tête, c'est le chef de village, la commission foncière départementale, COFODEP, et c'est vraiment la structure qui gère et règle les petits conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Cette année, le département de Mayaï a enregistré un déficit fourrager, ce qui du coup peut toucher la santé du cheptel du département si l'on y prend garde. Nous nous sommes entretenus avec Iliassou Gounadier, directeur départemental de l'élevage de Mayaï, qui explique d'abord ce déficit et les mesures prises pour pallier ce manque de pâturage. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons enregistré une importante quantité de pluviométrie, mais malheureusement, nous avons une insuffisance d'aire de pâturage, ce qui fait que chaque année, le département de Mayaï est chroniquement déficitaire du pâturage. Le nombre d'enclaves, leur superficie, le pâturage même qui pousse au niveau de ces aires, pour l'essentiel, c'est du Sida cortifolia qui n'est pas bien apprécié par les animaux. C'est ce qui fait que le département est chroniquement déficitaire d'une année à une autre. Nous demandons à l'État et aux partenaires de mettre les aliments bétail à temps. Nous demandons également de poursuivre la lutte contre le sida cortifolia, la vaccination gratuite du bétail, parce que un bétail qui est sous-alimenté, non vacciné, est vraiment prédisposé à des maladies, que des mortalités peuvent survenir à tout moment.
À Maradi, une campagne de vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle a été lancée lundi dernier dans le village de Garimagaji-Talaï, département de Guidangoumji. L'objectif est de vacciner environ 16 000 volailles de 44 villages des départements de Guidangoumji, Mayaï et Dakoro. Pour le chef service régional de la santé animale, Dr Isaac Danjimo, la maladie de Newcastle est très dangereuse de par sa virulence sur les volailles. Là, il est au micro de Mohamed Maman.
L'année passée, nous avons fait cette activité avec le projet Régis ER. Et cette fois-ci, c'est le PRODAF qui a pris ça en charge. Comme l'avait dit Pavlov, la santé animale, c'est la santé de l'humanité. La plupart des maladies que les gens sont en train de contracter, ça provient de l'alimentation animale. C'est pour cela, la première des choses, c'est d'augmenter les revenus des ménages ruraux afin de lutter contre la pauvreté. Protéger la santé animale, protéger la santé des humains. La maladie de Newcastle, c'est une maladie virale. Donc, qui dit une maladie virale, dès qu'elle attaque la volaille, elle décime la volaille. Lorsque la maladie attaque un village, toutes les volailles de ce village-là seront décimées. D'où la nécessité de la vaccination contre la maladie.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Je vous le disais à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse qui a été célébrée le 30 novembre dernier. Reporters sans frontières est revenu sur l'exercice de la liberté de la presse au Niger, selon Claire Khan Sriber, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, RSF. Malgré la diversité des médias nigériens, ceux-ci sont assez peu indépendants. Je vous propose de l'écouter.
Ce qui ressortait des interventions que j'ai pu écouter de celles que j'ai faites aujourd'hui, c'est une presse très diverse, pluraliste, dynamique. J'ai aussi fait des recommandations auprès de la ministre de la Communication sur la loi sur la presse, sa juste application, notamment éviter de recourir au code pénal pour poursuivre des journalistes en justice alors qu'ils ont commis des délits par voie de presse, et aussi insister pour les décrets d'application sur la loi d'accès à l'information et ainsi aussi que les textes sur les médias d'État puissent être examinés assez rapidement afin de fournir un vrai service public aux Nigériens.
Selon vous, qu'est-ce qui fait que le classement du Niger ne fait qu'osciller dans le classement de RSF ?
Alors, le classement du Niger, il a augmenté très très fortement, plus de 75 places en 2011. Et ça, c'était dû justement à la signature de la déclaration de la montagne de la table que le président Issoufou a signée à l'époque, qu'on célèbre aujourd'hui ce 30 novembre. Et puis aussi les lois nationales au Niger en 2010, la loi sur la presse qui dépénalise les délits de presse. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne va plus en prison pour un acte commis via un média, écrit, audiovisuel. Mais ça ne veut pas dire que les journalistes ne peuvent pas être poursuivis. Évidemment, les peines d'amende demeurent. Et ce qui explique la chute du Niger depuis, d'une part, la non-application parfaite de ces lois. Pour certaines lois, leur non-application tout court, comme la loi d'accès à l'information, qui n'a toujours pas de décret d'application 7 ans plus tard. Ou d'autres lois qui tardent à être mises en œuvre, comme la loi sur l'accès à la publicité, dont le décret d'application a été passé, si je ne me trompe pas, en janvier de cette année. Ça a pour conséquence, parfois de la part des médias privés, des pratiques clientélistes qui ne sont pas en accord avec une vraie liberté de la presse, et de la part des médias publics, pour le coup, une autocensure et, disons, une façon de toujours suivre la ligne du gouvernement qui non plus ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire d'un média public qui doit être au service de la population et non d'un parti politique.
Donc, quel est votre avis par rapport au traitement que les médias nigériens font de l'actualité ?
J'ai trouvé que c'était quand même une presse qui était attachée à une certaine qualité. L'information vraiment impartiale, si jamais même elle existe, n'est pas forcément au rendez-vous. Après, n'importe où dans le monde, hein, il y a des journaux de gauche, des journaux de droite. C'est important d'avoir des opinions, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse quand même, au sein de l'opinion, retrouver l'information.
C'était Clara Khan Sriber, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, RSF. Un entretien accordé au studio Kalangou. C'était avec Reylatou Soumana. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.